tous, aujourd'hui 14 juillet, les artistes défilent autour de la grande table. À 13h50, François Sureau remontera la scène jusqu'à Samois, sur les traces du héros de Simenon, le génial commissaire Maigret. Mais avant cela, nous allons suivre l'œil de la caméra de Philippe Garrel. Œil aiguisé comme celui du peintre, en noir et blanc comme celui du photographe. Son nouveau film, Le sel des larmes, est la fresque d'une vie amoureuse qui prend vie en même temps qu'elle se lézarde. Il est aussi le portrait de l'amour immuable d'un fils pour son père. Autoportrait en creux du cinéaste, peut-être, fils du grand comédien. Au fond, les œuvres ne le sont-elles pas toujours, autoportrait? C'est aussi le nom du nouvel album d'Hugo Frey, aux couleurs du folklore américain. À 90 ans, le voilà guitare dans le dos, prêt à reprendre la route. Philippe Garrel et Hugo Frey se succèdent et se croisent aujourd'hui. Ils sont les invités de la grande table d'été. Bienvenue à tous sur France Culture.
La grande table d'été, Maëlys Bessery.
Attends, excuse-moi. On peut se revoir?
Je sais pas.
Bah, cet après-midi.
Je travaille.
Bah après, je veux bien venir te chercher, moi.
Je finis à 5h.
Ouais? Et je viens te chercher? À 5h? D'accord.
T'as de quoi noter?
Ouais.
6 rues. Des acacias.
Des acacias. Ok. C'est vers où?
C'est vers la place du marché. En fait, derrière, c'est une rue.
D'accord.
Perpendiculaire.
Ok. Ouais.
Bah, tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Tu vas pas te perdre, au moins.
Non, t'inquiète.
Et bonjour à tous les deux. Philippe Garrel, on entend un extrait du sel des larmes. Ça commence par le son, très inhabituel pour vous, puisque vous, c'est cette image que l'on retient, Philippe Garrel, en premier, cette image qui arrive en noir et blanc. Alors peut-être d'abord quelques mots sur cette scène. On entend Jamila et la rencontre avec Luc.
Elle est une scène écrite par Arlette Langman, qui est une de mes co-scénaristes. Et Arlette, elle a écrit Loulou de Piala, et elle a écrit À nos amours, vous voyez, c'est un peu écrit comme ça. Et Oulaya Mamra, qui la joue, là, est très jeune. Et je l'ai eu pour élève au conservatoire, comme je suis prof au conservatoire. Et Logan, qui joue avec elle, et... Ça, c'est quelque part, c'est des très jeunes gens, ils ont 20 ans et tout. Et bon, voilà, j'essaie de dessiner des visages qui soient nouveaux, quoi, un peu.
Et alors, qu'est-ce qui représente justement le son, puisqu'ici on est à la radio, qu'est-ce qui représente le son pour vous, puisqu'on vous entend beaucoup parler de l'image?
Edison voulait dire, c'est Edison qui a inventé le son.
Exactement.
Le son. Et... ça me fait penser à, si vous me dites le son au cinéma, ça me fait penser qu'à un moment je faisais des films selon lumière, on dit, parce qu'en France il y a selon lumière ou selon Méliès, on disait à l'époque, par rapport à la famille à laquelle on appartenait. Et un jour j'ai découvert que Louis Lumière avait été antisémite. Alors, ça m'a beaucoup choqué quand même, parce que c'est compliqué de faire un art. Si celui qui avait inventé la musique avait été antisémite, ça serait compliqué. Ce jour-là, j'ai pensé, je vais plus faire des films selon Louis Lumière, je vais faire des films selon Edison. Puisque Edison, il a inventé le cinéma de l'autre côté de la Terre. Si vous demandez qui a inventé le cinéma, ils diront pas les frères Lumière, ils diront Thomas Edison. L'inventeur, ici, on pense qu'il a inventé que le son, mais il a inventé au même moment, il a inventé une caméra pareille. Alors que ici on a inventé une caméra plus un projecteur, alors que lui il a inventé juste la caméra, mais c'était pareil, c'était en 35 mm et tout ça, et la prise de son. Et j'ai commencé à faire des films selon Thomas Edison, et j'ai découvert que le son dans le cinéma américain, c'est comme s'il mettait l'image au milieu du son. Alors que le cinéma français, c'est comme si on mettait l'image, et l'image parle à un endroit de l'image, il y a le son qui est mis. Donc il y a une technique qui est complètement différente.
Ça dépend à quelle importance on lui accorde aussi. Je vous ai entendu dire ailleurs, ou même peut-être sur cette même chaîne il y a quelque temps, que si vous le pouviez, vous feriez des films muets.
Oui, oui, ça
Philippe
c'est
Garrel,
vrai.
C'est vrai?
Oui, si on voulait me produire, oui. Parce que c'est beaucoup plus facile de faire un film muet.
Muet et en noir et blanc.
Ouais, parce que oui, le muet va mal à la couleur. Je m'y suis essayé, un peu cassé les dents. Si vous faites un film muet en couleur, c'est quelque chose qui, ça passe mal. Il faut être en noir et blanc, en muet. Mais ça, c'est ce que j'ai appris de... C'est Henri Langlois qui m'a appris tout le muet à la Cinémathèque, Murnau, tout ça, Stroheim et tout, c'est tous les grands maîtres, Lang. Et ça, c'est le plus fort, quoi. Si peut-être le plus grand film, c'est L'Aurore de Murnau, ou on peut dire... ici, c'est... Mais ça, c'est pas un muet, c'est La Talente de Jean Vigo, ou des films comme ça.
Alors, l'image que l'on voit et qui apparaît assez vite, c'est aussi l'image du peintre qui fait des portraits au milieu de son film. Philippe Garrel, vous, la peinture, c'était aussi votre idée de départ. Vous vouliez être peintre.
Ouais,
et apparaissent des portraits, alors notamment de femmes nues sous la douche à travers une fenêtre, en tout cas fenêtre ouverte. Et là, on pense à Degas.
Ouais,
parce que vous aviez pensé à Degas ou à d'autres peintres.
Oui, oui, je pense exactement. Ou à Manet. Ou je pense aussi, j'ai été à Florence voir les peintures et je suis tombé devant un nu d'un Botticelli. Et c'est ça que je copie quand elle sort de la baignoire. Nu, par exemple, je copie parce que j'ai été plus souvent au Louvre qu'à la Cinémathèque. J'étais ami d'Henri Langlois pendant 8 ans, quand même. Donc j'allais quand même voir Henri à la Cinémathèque plusieurs fois dans la semaine. Sinon, j'allais au Louvre parce que j'habitais à côté. Donc c'est une influence très très forte pour moi, la peinture. Je ne saurais pas concevoir le cinéma sans le relier aux autres arts, sans la peinture, sans la musique, sans la littérature, la danse, le théâtre. C'est quelque chose, et la sculpture, c'est quelque chose qui, pour moi, va de soi que le cinéma est lié aux autres arts. Enfin, le cinéma qui m'intéresse. Hein.
Alors, ce cinéma, c'est aussi un geste de transformation. Ce geste de transformation par la caméra, comment est-ce que vous le concevez au fur et à mesure que votre œuvre avance dans le temps? Ce film-là, on le voit comme un film un peu intemporel. Il y a ce noir et blanc, il y a ces corps-là, en même temps... La présence de téléphones portables nous fait penser qu'on n'est peut-être pas très loin de ces jours-ci. Et pourtant, ouais. Tout nous ramène à quelque chose de très intemporel, Philippe Garrel.
Oui, ça c'est sûr. C'est parce que je dessine des gens qui ont 20 ans, mais je n'ai que mes 20 ans pour référence.
Et... Alors vous dites je dessine.
Ouais.
J'écris
avec ma caméra plutôt, comme parce qu'il faut réécrire le film avec sa caméra. Et pour ça, j'ai une méthode, c'est que j'ai pas mon script dans les mains sur le tournage. C'est-à-dire, je suis bien obligé de tout réécrire. C'est compliqué, c'est pour dire quelque part que pour que tout soit bien compréhensible. Et je tourne dans l'ordre, sinon. C'est une méthode où je tourne depuis le début jusqu'à la fin, comme ça.
C'est-à-dire que ce que vous transformez avec votre caméra, c'est de l'ordre du pictural. Quand vous dites « je dessine avec ma caméra »,
ouais, ouais.
Expliquez-nous, ça dépend de la manière...
C'est un peu pareil pour moi que si j'avais été peintre. C'est très manuel de la caméra, où est la caméra, que fait l'acteur, comment diriger l'acteur. Ce qui m'intéresse le plus, comme je suis fils de comédien de théâtre, c'est l'histoire de la justesse des acteurs ou de l'authenticité du rapport des acteurs entre eux, ou quelque chose de cet ordre. Et sinon, ça, je travaille beaucoup avec eux avant. Et puis après, je les laisse faire et je tourne en une prise quelque chose où je les dessine très rapidement, comme ça, dans le temps. Et jouant. Et,
comme s'il y avait une sorte d'étude faite avant, des études avec ces comédiens-là.
Ah, énorme. Je travaille beaucoup plus vite. Et après... je monte pendant le tournage et je suis dans l'ordre, donc je vois le film se dérouler, donc je peux modifier ce que je... Et ce que j'aime dans le cinéma, c'est dans le cinéma, on peut dire ce qu'on veut. C'est ce qui, finalement, l'a emporté sur la peinture. J'ai pensé on peut exprimer ce qu'on veut, qu'on est totalement libre de dire ce qu'on veut. Et je dis vraiment ce que j'ai envie de dire, je m'auto-censure jamais. Et ça, quand je fais un film, et ça... oui, c'est assez... Enfin, il y a d'autres arts aussi, on peut s'exprimer, mais... Bon, voilà. Mais le cinéma est forcément, pour moi, au milieu des autres arts, parce que sinon, c'est un peu angoissant.
Alors au milieu, oui, parce que au début de l'histoire, ce qui apparaît, c'est ce personnage un peu de Rastignac qui arrive à Paris et qui va finalement rentrer dans à l'école Boulle et découvrir en même temps la capitale. Et là, on pense à la littérature dans la manière dont la chose est présentée. Et là aussi, on est dans une dynamique assez intemporelle, comme si le souhait c'était justement de rajouter la littérature à la peinture et au cinéma, de cumuler ces arts-là, Philippe Garrel.
Ouais, celui-là, il est presque en train à certains moments de film, il est presque comme un réaliste poétique, comme à l'époque de Prévert et Carnet, ils cherchaient un réalisme poétique, ils appelaient ça. Et c'est quelque chose qui est légèrement en rapport avec la référence au rêve, à l'image dans le rêve, comment elle est.
Donc c'est tout sauf du réalisme en réalité, c'est un univers assez onirique.
C'est les deux. Dans l'idéal, ça serait les deux. Ça serait à la fois comme une prise sur de temps réel, enregistré. Mais c'est très fort le cinéma, parce que par exemple, ça fait 125 ans que ça existe. Mais on est la première génération, ou les premières générations, à vivre avec des fantômes réels. Parce que bon, une peinture c'est un fantôme, mais enfin c'est quand même je sais pas comment expliquer, c'est passé par la synthèse de l'esprit que celui qui l'a fait, et ça a modifié, c'est pas une empreinte, comme l'image. Vivre avec tous les gens que j'ai perdus, soit des amis que j'ai mis dans mes films, soit des gens de ma famille, parce que j'ai beaucoup tourné avec des gens de ma famille, d'en avoir les fantômes, c'est une chose qui n'est pas arrivée. Ça arrive depuis 2-3 générations, mais avant on n'avait pas les fantômes présents. Et donc c'est dans ce sens-là que je pense que le cinéma est angoissant, et que le reliant à la peinture, par exemple,
c'est le pas de côté qui le rend supportable.
Ouais, je sais pas comment expliquer. Dès qu'il est lié aux autres arts, comme fondamentalement, l'histoire, c'est de prouver à chaque fois que le cinéma est un art. Quand on fait un film, on dit, qu'est-ce que j'essaie de prouver? Que le cinéma est un art. Et voilà, et en même temps, on le fait pas comme ça, parce qu'on le fait d'une manière qui est beaucoup plus bâtarde, ou je sais pas comment expliquer ça. C'est pas du tout sacré, ou je sais pas, comme moment, comme ça, c'est plus
comme la peinture ou comme la musique.
Ouais, ouais.
On va écouter un autre extrait du sel des larmes, et peut-être parler d'un autre rapport qui est très fort, qui est peut-être lié à ce que vous venez de dire, à celui des fantômes, à celui aussi des morts qui hantent le film. C'est le rapport au père.
Luc vivait et travaillait avec son père. Le père avait une âme de poète et son fils l'admirait.
Là, tu as Cassiopée. Hein? Ah oui, là.
Tu vois?
Là, tu as la constellation du Lion. On la voit bien aujourd'hui. T'as compris comment ça se dessine?
Oui, 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 ça commence.
Et là-haut, c'est Bételgeuse. Elle est lumineuse.
Ah oui, ça donne.
Ouais. Bon, si on veut finir le cercueil pour demain matin, il faut y aller. Hein. Dans le cercueil, tu vois, il faut que la planche du bas soit un peu penchée pour que le corps ne tombe pas en avant. Sinon, il est à genoux. Pour l'éternité.
C'était bien à Paris?
Oui. Oui, c'était super bien.
Je me demande si je suis pas le dernier à faire ça.
À faire des cercueils?
Lundi dernier, en tout cas.
Les gens continuent de mourir?
Ouais, mais ils mourront plus ici.
Philippe Garrel, il y a quelque chose de terriblement angoissant au fait d'entendre quelqu'un fabriquer un cercueil, et en même temps, quelque chose de très poétique dans un père qui montre ses étoiles au fils. Et là, on sent quelque chose d'annoncé du destin qui les relie. Ce lien-là au père, qui n'est pas nouveau dans votre œuvre, vous l'avez creusé d'une autre manière, si on peut filer la métaphore de la tombe. Qu'est-ce que vous vouliez raconter justement dans cette histoire d'artisan, d'ébénisterie, dans ce geste-là qui se partage entre un père et son fils, ces dialogues et puis aussi ces silences, ces non-dits?
C'est par rapport à l'éducation, c'est une chose qui me passionne assez, l'éducation. Comme j'ai trois enfants, et dont un fils, alors le film il était fait selon ce que je vis avec mon fils, et en même temps ce que j'avais vécu avec mon père, c'est-à-dire je pouvais m'identifier aux deux personnages, je pense, je savais ça quand je le faisais, quand je filmais, et en même temps, je faisais quelque chose qui était dans une fiction, mais je pensais qu'il y avait des souvenirs, que j'avais des souvenirs latents comme ça, inconscients, qui affleuraient presque dans le préconscient, mais je fixais pas une chose précise dans mes souvenirs. J'étais en fiction et l'inconscient imprimait. Sans que je m'en occupe trop. Et comme j'avais été et le fils et le père, j'avais quelque part quelque chose qui était dialectique dans la manière de dessiner ça, le père et son fils.
Ce qui s'imprime très fort, c'est cette présence du père, cette présence, son langage parfois un peu mystérieux, assez poétique, parfois énigmatique.
Ouais.
Le père, dans ses silences, qui se refuse à avoir un rôle paternel sur un fils déjà grand. Il y a quelque chose du renoncement aussi au fait à l'autorité.
Ouais, mais ça j'ai laissé André Wims faire comme il voulait. Hein. C'est entièrement une interprétation de lui par rapport au dialogue qu'il avait. C'est-à-dire comme j'ai travaillé avec tous les jeunes comédiens et André Wims, on a dû faire, je sais plus, 44 jours de répétition. Donc c'était indispensable pour les jeunes comédiens. Mais André Wims, il aurait très bien pu jouer comme on joue d'habitude, le jour du tournage, etc. et tout. Mais ça l'intéressait de travailler avant avec les jeunes comédiens. Et ça, c'était assez émouvant, parce qu'il y avait tous les jeunes, chaque fois que Wims jouait, tous les jeunes disaient « Oh, il est extraordinaire !» etc. et tout. Donc il y avait une espèce d'émulation très grande. Et dans ces répétitions que je fais, ça fait vraiment partie intégrante du film pour moi, et il y a aussi un très grand plaisir à faire ça, comme quand je tourne et tout ça. Je fais vraiment du cinéma pour tourner, quoi, et aussi pour répéter et pour essayer d'être. Parce que.
Donc l'expérience, elle est pas simplement devant la caméra, c'est toute l'expérience du film qui vous intéresse.
Oui, c'est la conception la conception comme de la pièce au théâtre ou tout ça, et les personnages, et quel genre pour l'interpréter, etc. et tout ça. Tout ça, ça me passionne. Et la direction d'acteur.
Alors, comme vous êtes à la fois le père et le fils, vous avez joué de cette duplicité en tant que metteur en scène. Comment est-ce qu'on se débrouille avec le temps quand on travaille depuis un certain temps, Philippe Garrel, quand on a fait beaucoup de films, et quand on filme aussi la jeunesse, qui est d'un temps différent de celui qu'on a vécu en tant que jeune metteur en scène aussi. Comment vous vous débrouillez avec ça?
Je ne m'en rends pas vraiment compte. Je suis comme toujours à mon premier court-métrage. Derrière la caméra, j'ai toujours le même âge. Mais peut-être c'est... non, je ne me rends pas vraiment compte sur cette question-là. Et... non, j'ai juste... quelque part, j'ai basculé dans l'art complètement, quoi. C'est une espèce de... Quand j'étais jeune, j'étais plus sur une dialectique de l'histoire et de l'art. Je trouvais les deux très aussi intéressants, la Révolution, ces choses-là. Et puis après, je suis tombé dans l'art, mais complètement. Et donc, je suis à l'intérieur de ça, et je vois ça comme nécessaire à la vie. Bon.
Alors, ce qu'on retrouve de vos anciens films, c'est ce noir et blanc. Vous avez commencé avec le noir et blanc, vous êtes passé par la couleur et vous êtes revenu à cette pellicule en noir et blanc, probablement pour plusieurs raisons. Philippe,
là, c'est pour une raison, parce que pour moi, c'est plus facile que de réapprendre à faire marcher d'autres machines. Parce que comment j'ai fait, des fois, j'étais mon propre opérateur en 35 noir et blanc, je chargeais tout seul la caméra J'ai même fait des films en 35 muets, sans technicien, étant seul. Donc je sais très bien faire ça. Après, je les montais tout seul sur une table de montage. Donc je sais faire marcher les machines du 35. Donc pour moi, c'est beaucoup plus facile, rapide et économique, paradoxalement, que pour une... C'est comme les nouvelles générations qui ont tourné tout de suite en numérique. C'est parce que quelque part, c'était pas difficile de s'adapter à une caméra... pour la première fois de leur vie.
Mais c'est pas simplement ça, le noir et blanc. Ça change beaucoup de choses.
Oh si, c'est plus facile à faire pour moi. C'est comme la peinture à l'huile, c'est plus difficile que la peinture à l'eau. La couleur.
Philippe Garrel, sur la question de la technique, il y a aussi bien sûr le montage que vous avez longtemps fait vous-même et que vous confiez désormais.
Ouais.
On va écouter Jean-Luc Godard en parler. C'était en 98 sur France Culture.
Le montage, c'est quelque chose qu'avaient peut-être certains peintres à l'intérieur du tableau, mais uniquement à l'intérieur du tableau. Et du reste, que Eisenstein a reconnu et qui, chez Greco, pour lui, et il appelait le Greco le grand monteur de Tolède. Mais qui est quelque chose qui était, je crois, qui est à dire quelque chose qui a du sens, quelque chose qu'a cherché l'analyse. Mais comme elle guérissait tout de suite des patients, la théorie est comme ça. Et le cinéma, là, et qui me fait dire qu'ils l'ont tous cherché, ils l'ont tous appelé d'un autre nom. Voilà. Griffith cherchait le montage et il a trouvé le gros plan. Et on le crédite du gros plan. Alors qu'il y a eu des centaines, c'est pas ça du tout. Eisenstein, les Russes ont même fait des séries de discussions sur le montage. Aucun ne savait monter. Bon, aujourd'hui, on appelle montage assemblée. Quelqu'un à la télévision se prétend monteur. Pour moi, il est à peine petite main de couture.
Il est colleur.
Il est colleur tout au plus. Et puis, il a des règles de collage qu'il a.
Mais il n'a peut-être pas la matière pour faire autre chose.
Si les montages, souvent, ce qu'on appelle le montage chez Eisenstein, qui n'est pas du montage, font de l'effet. Ce n'est pas du tout que les plans soient les uns après les autres, c'est que ces plans les uns après les autres ont été pris selon un angle très savant et très prémédité qui fait que leur choc produit quelque chose. Voilà. Mais c'est l'angle qui fait d'abord quelque chose. Et personne n'a su faire des angles comme Eisenstein, sauf peut-être des gens comme certains peintres impressionnistes, comme Degas par exemple, ou des choses comme ça, qui avaient une notion, et qui vient de la peinture, cette notion d'angle. Mais la peinture n'a pas de montage, non pas que des peintres n'ont pas eu d'idée de montage, mais c'est un rapport.
Philippe Garrel, quelques mots sur Jean-Luc Godard, sur ce lien entre montage et peinture.
Mais à un moment, il parlait de la psychanalyse, à un moment, il disait comme l'analyse. Et en fait, la psychanalyse et le cinéma sont nés en même temps en 1895, la même année. Et sur, entre le montage et la peinture. Oui, c'est comme Godard, c'est mon maître. Alors, donc, je lui écris souvent. Quand il y a un film, je lui écris toujours pour dire ce que je pense du film et tout. Et des fois, pareil, il m'a mis des messages sur mes films. Surtout ceux qui n'ont pas marché. Il me soutient quand ça ne marche pas. Il me dit que c'est très bien. Et j'avais trouvé ça, un message sur mon répondeur. Un jour, il y avait un film, il n'y avait personne dans la salle. Et il y avait un message de Godard qui disait qu'il l'avait vu, c'était très bien. Donc ça m'allait, ça me suffisait. Et non, mais entre la peinture et...
Et le montage.
Et le montage, ouais, bien sûr.
Qu'on appelle le montage.
Ouais, mais oui, c'est quelque chose de l'endroit où je suis quand même maintenant. Avant, je faisais... Au début, j'avais beaucoup de mal à me poser parce que les gens disaient que c'était vraiment mon maître, comme un peintre qui travaillait dans l'atelier d'un autre. Et dans les siècles, il y en a eu plein, des peintres qui ont travaillé dans l'atelier d'un peintre de la génération précédente. Et puis après, je m'en suis éloigné, mais je crois que c'est par cette histoire de jeu d'acteur qui m'a rattrapé de mon père, du fait que je voulais absolument avoir... que tout soit joué juste, quoi. C'était comme pour la musique, les fausses notes, je tolérais plus qu'un jeu soit pas juste. Donc, je me suis éloigné dans ma recherche surtout là-dessus, puisque après je suis devenu professeur d'art dramatique. J'ai dû faire 11 années non consécutives comme ça, prof d'art dramatique et tout ça. C'était comme mon deuxième métier.
Sans aucun souhait d'aller au théâtre. D'ailleurs, c'est la mise en scène au cinéma qui vous intéresse.
Au cinéma, oui, oui, et la direction d'acteur aussi. Parce que si on dit on répète, etc. et tout, mais on répète d'une manière qui est très différente d'au théâtre. C'est-à-dire qu'une manière de diriger un acteur pour le cinéma, c'est pas du tout la même chose qu'au théâtre. Je veux dire, on va pas... Enfin, c'est compliqué à expliquer, mais c'est pas la même... C'est pas la même méthode, je pense. Et donc, au conservatoire, la classe de cinéma qui est reliée au conservatoire de théâtre implique, par exemple, que vous sortiez du conservatoire pour tourner avec les élèves, parce que si vous tournez à l'intérieur, il y a le théâtre qui est dans leur inconscient quand ils parlent. Et il faut aller dans des chambres d'hôtel autour, dans des cafés pour tourner avec eux. Et tout de suite, les choses se retrouvent...
Ils s'imprègnent autrement.
Ouais, ouais, parce qu'il faut jouer avec... d'une manière qui est cinématographique.
Alors, puisque vous parlez de vos maîtres, il y a Godard, bien sûr. Il y a aussi Truffaut et le fait de travailler la jeunesse à l'écran.
Ouais, ouais.
Cette jeunesse-là qui revient, même si ça n'est pas la même. Ouais. Il y a aussi ce noir et blanc qu'on a connu dans les 5 films expérimentaux de 68, notamment.
Ouais.
Qu'est-ce que vous voyez comme une sorte de continuité? Il n'y a plus directement de politique dans ce film-là. Je ne crois pas. Mais il y a des figures littéraires que l'on retrouve, et notamment peut-être celle du Don Juan, avec ses bons et ses mauvais côtés. Peut-être celui qui se laisse un peu avaler par le miroir aussi amoureux.
Truffaut tient vraiment le coup. Oui. C'est-à-dire, Truffaut, c'est comme... Il y a des cinéastes qui se révèlent encore plus forts qu'on croyait qu'ils étaient. On pourrait dire Truffaut en France, ou Pasolini en Italie, qui était vraiment... encore le plus grand cinéaste qui ait jamais existé, quoi. Si on disait de nos jours que c'est pour le coup, ça serait l'égal en importance de Godard et tout. Et alors qu'il était parmi les grands, mais vraiment c'est quelque chose de et Truffaut c'est la même chose, c'est-à-dire c'est mais Truffaut c'est beaucoup moins peintre justement que Godard comme cinéma. Mais parce que c'est un peu comme si les gens avaient ceux qui ont voulu écrire un roman dans la collection chez Gallimard comme première œuvre, ceux qui ont voulu être peintre ou etc. Puis finalement ils ont pris le cinéma l'un ou l'autre.
Et ça transpire.
Ça transpire. Mais maintenant peut-être dans les nouvelles générations, les gens ils viennent au cinéma directement, sans doute. Ils sont pas attirés par un art et le cinéma comme on pouvait l'être avant. À cause du fait que, mais mon professeur, moi, me disait, il faut pas être, il était très intelligent, il s'appelait Marcel Demercq, c'était, quelqu'un de très intelligent, au lycée Montaigne, et il me disait, mais Philippe, quand on est intelligent, faut pas être, faire du cinéma, il faut écrire un livre, il faut écrire. Et donc, c'était très
cloisonné?
Ouais. Et là, c'était les tout débuts de la nouvelle vague, quand j'étais lycéen. Et moi, j'avais repéré que non, c'était noble, c'était pas seulement, un peu poussiéreux et pétainiste, comme on peut accuser le cinéma de la génération d'avant, un peu comme ça, qui était pas, c'est pas, il y a pas eu beaucoup de films sur la résistance, à part celui de Jean-Paul Le Chanois, là, qui s'appelle, qui est magnifique et tout. Mais, bon, non, à part la nouvelle vague, tout d'un coup, il y a quelque chose qui arrive, qui est la vie. C'est des gens très différents qui, tout d'un coup, se mettent à faire des films et tout, et qui ont un état d'esprit différent, et qui sont quelque part des hommes libres par rapport au... J'ai l'impression de ça, moi. Bon.
France Culture, la grande table d'été, par Maëlys Bessery.
Puisqu'on vient d'évoquer 68, il y a un nom qui vient tout de suite, qui vous est commun à tous les deux, Philippe Garrel et Hugo Frey. C'est celui de Bob Dylan. On m'a dit que vous étiez un Dylanien, vous aussi, Philippe Garrel. Alors, quel Bob Dylan aimez-vous?
J'aime tous les Bob Dylan. Je trouve toujours que dans tous les disques de Bob Dylan, il y a soit tout le disque extraordinaire, soit deux morceaux extraordinaires. Et sa langue est extraordinaire. D'écriture comme poète.
Enfin, un prix Nobel. Bah oui. Poésie maintenant, oui. Dylan.
Oui.
Alors lui, il a décloisonné pour le coup les disciplines.
Oui, pourquoi ?
Bah parce que de la poésie en chanson, il n'y a pas eu de cloisonnement particulier entre les disciplines. Il a croisé tout ça, Dylan.
Ouais. Ou ses livres, ou chroniques, là, c'est intéressant, où on voit qu'en fait, il est pareil, il est enfermé dans la musique complètement. Enfin, pareil, je ne me comparerai pas à Bob Dylan, mais il est complètement dans la musique à un point, il cite tout le temps des références, des gens très très précis dont nous, on n'a jamais entendu parler, qui sont très très importants pour lui, et tout ça, dans ses chroniques écrites, comme ça. Et ça, et son refus de comme s'il avait été politique, mais à son insu. Et puis tout d'un coup, quand on nommait ça politique, de dire non, non, je ne suis pas politique.
Bon. Vous êtes d'accord avec ça, Hugo Frey ?
Oui, j'écoute avec... d'ailleurs, tout ce que j'ai entendu sur le cinéma, je partage, il a parlé pour moi, parce que moi, je n'aime que le cinéma noir et blanc, mais bien sûr, je vais voir les films de Clint Eastwood, qui sont formidables, mais c'est le noir et blanc, pour moi, le cinéma. Et autre chose que vous avez dit, qui est très juste, c'est l'importance du son. Moi, je déteste la musique que l'on met dans les films. Je trouve que le son, c'est très très important. Moi, je suis au cinéma depuis Georges Rouquier avec Farbik, jusqu'à Jean-Ry Meunier avec ici Najak à l'eau la terre, que je vais vous faire découvrir. J'aime le cinéma vrai. Et d'après ce que je vous ai entendu dire, c'est ça que vous faites. Alors, j'ai juste une chose à vous dire. Dans les peintres qu'il faut citer pour l'angle pictural exceptionnel et pour le nu allié à la baignoire, c'est Bonnard.
Bah oui. Bien sûr, c'est Bonnard.
Voilà.
Alors Hugo Frey, il faut dire quelques mots maintenant. Là-dessus, parce que vous aussi, aimez la peinture, vous êtes aussi...
On va parler juste de Dylan, puisque c'était ça.
Alors on va peut-être l'écouter avant d'en parler.
Hein, si vous voulez.
Il y a aussi un dernier album qui est sorti il y a quelques jours, quelques semaines à peine, I Counted Multitudes. On va peut-être écouter un extrait, et ça commence ici.
All through the summers into January, I've been visiting morgues and monasteries, looking for the necessary body parts, limbs and livers and brains and hearts. I'll bring someone to life, is what I want to do. I want to create my own version of you. Well, it must be the winter of my discontent. I wish you'd have taken me with you wherever you went. They talk all night and they talk all day. Not for a minute do I believe anything they say. I'll go bring someone to life, someone I've never seen. You know what I mean? You know exactly what I mean.
Et là, c'était My Own Version of You. On en écoute un petit extrait. C'est un morceau fleuve.
17 minutes.
Alors, c'est extrait de Rough and Rowdy Ways, le 39e album studio de Bob Dylan, hein, qui a 79 ans. Qu'est-ce qu'on peut dire d'abord de cette voix, peut-être, avant d'en venir au fait, cette voix particulière de Bob Dylan? Il y a le texte, il y a la musique, mais il y a cette manière de s'identifier tout de suite, cette voix qui commence au creux des fosses nasales et qui, en même temps, vibre de tout.
Vous voulez que je parle de Bob Dylan ?
Bob Dylan.
Alors laissez-moi la place.
On y va.
Ça sera trop long. Parler de Bob Dylan, c'est un génie, mais ce que les gens n'ont pas compris encore, c'est que tout à l'heure, vous avez parlé de Bob Dylan, prix Nobel de littérature. Ce qu'a fait Bob Dylan, c'est qu'il a récupéré la poésie qui avait été séquestrée par l'élite intellectuelle du 19e, du 18e et 19e siècle, jusqu'à, évidemment, des très grands poètes comme Mallarmé, Paul Valéry, mais qui, d'un seul coup, s'étaient autorisés à écrire des poèmes que personne ne pouvait lire et que personne ne lisait. Quand je dis personne, c'était une poignée de personnes. Or, la poésie a toujours appartenu au peuple, mais elle était chantée. du temps des Grecs, elle était chantée, du temps de Sophocle, et tout ça, c'était chanté. Puis au Moyen-Âge, c'était les troubadours. Et tout d'un coup, avec la spécialisation du modernisme, chacun, alors vous avez les grands mathématiciens grecs sont à la fois des astronomes, des astrologues, des philosophes, des médecins, et puis après chacun prend une spécialité dans laquelle il connaît tout sur presque rien, c'est ça la définition du spécialiste. Et la poésie est morte. Quand vous lisez, pour moi, hein, je sais que je vais choquer beaucoup de gens, mais je suis là pour ça. Les gens, quand vous voyez la poésie, par exemple en 1945-50, René Char, Supervielle, tout ça, personne ne lisait ça. Je veux dire, en tout cas pas les ouvriers de chez Renault, ni les paysans de la Corrèze. Ils se réfugiaient sur les chansons de Tino Rossi, de Rina Ketty. J'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai ton retour. C'était ça la poésie. Elle était au niveau du trottoir et tout d'un coup, elle avait été séquestrée par des gens très doués comme Aragon, qui sont des très grands écrivains. Mais à mon avis, qui se sont trompés parce que à ce moment-là, Rimbaud nous avait laissé un message très important qui n'a pas été compris. C'est qu'il a arrêté de faire de la poésie, de l'écrire. Le genre littéraire qu'est la poésie écrite a connu son âge d'or au 18e, c'est ça comme je l'ai dit, 19e, Baudelaire, etc., Mallarmé. Mais tout d'un coup, on est rentré dans un système, comme pour la peinture, l'art contemporain, où il n'y avait plus aucune contrainte, ni rime, ni cadence. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les gens étaient perdus, ça.
On ne la reconnaissait plus, cette peinture, Hugo Frey?
C'était illisible. Et alors, tout d'un coup, arrive un type qui porte une guitare autour du cou, un harmonica, qui a une silhouette extraordinaire.
Moi, très pictural en lui-même. Hein,
moi, je le vois en 1961, je l'ai connu en 61, il faut dire. En 62, je suis revenu aux États-Unis pour le revoir, parce que je voulais m'installer aux États-Unis. Parce qu'il y avait justement ce genre de musique, ce genre de personnage qui existait pas en France. Et il est venu en 63 chez moi, je lui ai trouvé une chambre rue Cujas, et je lui ai offert une veste en cuir qu'il a portée pendant longtemps. Et en fait, tous ces jeunes que vous voyez gare de Lyon, gare d'Austerlitz ou ailleurs, et qui partent pour les Indes ou ailleurs, et qui ont une guitare sur l'épaule avec un sac à dos, ce sont des enfants de Bob Dylan. Et quand on lui a donné le prix Nobel, j'en finirai avec ça, c'est parce qu'on a voulu rendre hommage à celui qui symbolise la poésie retrouvée, c'est-à-dire la poésie au niveau du peuple. Alors il chantait, moi j'ai vu des concerts, j'ai chanté avec lui au Parc de Sceaux, il y avait 60 000 personnes devant nous.
Ah, ça c'était en 84?
Voilà.
En 1984, voilà, tu m'offrais. Voilà. On va l'écouter, cet extrait-là? On va écouter cet extrait-là, oui, Bob Dylan, avec vous.
I want to introduce a friend of mine. I first met when I came here in 1962, just the other day. Anyway, he's made a few records here. I want to introduce him to you now. Hugo Frey. Si je parle pas de ce soir, je crois que je n'aurai jamais plus de ma vie. Où que vous soyez, accourez, braves gens. Alors commence à monter, soyez plus clairvoyants. Admettez que bientôt, vous serez du passé. Et que si vous valez la peine d'être sauvé, il faut maintenant apprendre à nager. Car le monde, elle est en train.
sens ému, Gaufret.
Non, je suis très ému, je ne m'attendais pas à ça, franchement. Et permettez-moi de vous dire qu'en mai 68, puisque vous avez parlé tout à l'heure de mai 68, j'étais en tournée et pour Europe numéro 1. Et j'ai reçu l'ordre d'arrêter la tournée et de remonter à Paris jusqu'à ce que les événements changent de tournure. Et j'ai donc été voir un petit peu ce qui se passait sur le boulevard Saint-Michel, et j'ai été abordé par beaucoup d'étudiants qui me demandaient d'écrire une chanson sur mai 68. J'ai dit, mais vous avez rien compris. Le type qui écrit une chanson sur mai 68, c'est juste un type qui cherche à récupérer, donner une bonne image, mais c'est trop tard. Il fallait l'écrire avant. Et alors, ils me disent, mais oui, mais... Ben, je dis, ben, Bob Dylan l'a écrite, et moi je l'ai chanté parce que je ne suis là que pour transmettre et faire comprendre à ceux qui ne parlent pas l'anglais ce que Bob Dylan dit. Car moi, j'ai commencé à traduire Dylan parce que je ne comprends pas l'anglais. Donc quand j'entendais « Like a Rolling Stone », je me disais « Mais qu'est-ce qu'il raconte là-dedans » Donc la meilleure façon de savoir, c'était de traduire. Et après, j'ai dit « Ben, je vais... » Pour le principe du partage, et de le partage, pour moi, c'est tout.
Alors là, c'est « The times they are changing ».
C'est de faire connaître Dylan en donnant ses traductions, ce qui a touché le cœur des petits comme Renaud, qui lui aussi ne parlait pas et ne comprenait pas l'anglais.
Philippe Garrel, dans les années 60, le Dylan que vous découvrez, qu'est-ce qu'il véhicule avec lui pour vous de l'Amérique et de l'Amérique contestataire ?
Si on défend le hippisme, qui est un mouvement pacifiste mondial génial, qui après a été ridiculisé dans ce qu'on en a raconté a posteriori, mais qui est un mouvement pacifiste génial de vouloir arrêter la guerre sur la totalité de la Terre. On peut pas ne pas parler du LSD quand même si on défend le hippisme, parce que il y a quand même quelque chose de comme justement un vaccin contre la guerre qui s'est opéré comme ça, qui a fait le tour du monde, qui est parti de la côte ouest et qui a été jusqu'au Japon. Mais oui, c'est important, petit à petit, comme on l'a fait sur mai 68, de dire non, historiquement, c'était très très bien le pacifisme du hippisme. C'est pas du tout un défaitisme ou quoi que ce soit. Et ce truc, bon.
Et vous, Hugo Frey?
Dylan a dit qu'il n'aimait pas les hippies, hein, vous savez.
Mais il aime bien dire qu'il n'aime pas.
Dylan dit des choses extraordinaires, c'est toujours. Alors, si vous voulez, moi, j'adhère complètement. Je pense qu'il méritait tout à fait ça, parce que pour moi, Rimbaud symbolise le poète du genre littéraire, c'est-à-dire le poème qu'on écrit, puis il met la fin de la poésie écrite avec la saison en enfer, avec les illuminations. Ça veut dire maintenant, hein, si vous écrivez de la poésie, vous avez rien compris. Il faut faire du cinéma. Le cinéma, c'est aujourd'hui, à mon avis, l'art qui permet d'exprimer la poésie. Malheureusement.
Pas la musique, Hugo Frey?
Oui, mais la musique avec. Oui, bien sûr, si on chante la poésie avec la musique, comme Renaud, comme beaucoup, comme Brassens, qu'il faut dire. Alors, moi, un jour, je me suis un peu disputé avec quelqu'un qui avait un nom connu que je ne citerai pas, parce que on parlait de Brassens. Il dit, c'est pas un poète, c'est un type, c'est un chansonnier. J'ai dit, vous avez rien compris. Brassens, c'est un poète, et il a compris qu'il faut. La chanson, ce n'est pas de la poésie. La chanson, c'est de la chanson. Il y a Guy Béard, que j'ai découvert parce que j'ai quand même un certain, j'ai pas tous les talents, loin de là, mais j'ai quand même un certain talent parce que j'ai trouvé Gainsbourg avant tout le monde, et Guy Béard, c'est moi qui lui ai dit de chanter. Bon. Eh bien, Guy Béard disait, il faut surtout éviter quand on écrit une chanson, il faut éviter la poésie.
Alors, même si on obéit à certaines règles rythmiques, notamment, vous parlez de Brassens. Brassens, c'est quand même un art de la rime, une rythmique extrêmement travaillée, extrêmement précise.
Et la base d'une chanson, c'est d'abord, numéro un, le rythme. Il faut savoir que sa mère était napolitaine et elle chantait des tarentelles. C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du candidaton. Ça, c'est la tarentelle pure. Il disait la première chose, c'est le rythme sur lequel on va se baser. Ensuite, c'est la musique. Et enfin, le texte. Alors que tout le monde pense que, il disait que c'était un type qui faisait des textes extraordinaires, des musiques moyennes, mais un rythme un petit peu toujours le même et un peu lassant. Donc la plupart des gens, et il disait lui-même que il était incompris. Et il disait, les gens m'ont fait de moi une vedette parce qu'ils pensaient que j'étais un chanteur de corps de garde, qui chantait des chansons grossières. Et sa pauvre maman, je ne sais pas si vous savez cette anecdote extraordinaire, sa maman n'a jamais voulu, qui était italienne, catholique, et qui avait élevé son fils chez les curés, sa mère n'a jamais voulu aller le voir sur scène, parce qu'il disait des gros mots. Et lorsqu'elle est morte, la pauvre, il était en concert. Et ce soir-là, lui qu'on a dit athée, et anarchiste évidemment.
Mais même anticlérical parfois.
Anticlérical. Il s'est tourné vers Nicolas, son bassiste. Il jouait ce jour-là. Il s'est tourné pour voir un verre d'eau et il a dit, tu sais, Nicolas, ce soir maman est dans la salle.
Cette histoire de fantôme, Hugo Frey, elle vous est propre parce que vous aussi, vous avez vos fantômes qui vous poursuivent depuis que vous chantez et bien avant.
On va parler de mon disque alors.
On va parler de votre disque et de votre autoportrait, puisqu'il s'agit de cela. Alors on disait que peut-être il y a toujours une dimension d'autoportrait. Et l'autoportrait, il est parfois surprenant parce que il arrive aussi même dans la folk américaine et dans son imaginaire. On va peut-être commencer par une chanson, celle de Dan Tucker.
Dan Tucker est un vieux routard qui se lève tôt et qui se couche tard. Un joli cœur un peu flamard. Il vit peinard dans son bazar. Rentre chez toi, vieux Dan Tucker. T'as souvent fait froid, t'as passé l'heure. Dégage de là, vieux Dan Tucker. Pour faire la fête, t'as passé l'heure. Avec sa gueule de vieux briscard, il joue les stars sur sa guitare. Mais prenez garde, c'est un bavard. Il sent plus faux qu'un vieux canard. Rentre chez toi, vieux Dan Tucker. Ta soupe est froide, a passé l'heure. Dégage de là, vieux Dan Tucker. Pour faire la fête, t'as passé l'heure.
Alors Hugo Frey, pourquoi cette histoire de Dan Tucker?
C'est une auto-caricature du chanteur Hugo Frey. Mais tous les mots que j'ai choisis pour décrire ce que je suis ne sont pas exacts. Par exemple, à un moment donné, je dis « il chante plus faux qu'un vieux canard », c'est faux, je ne chante pas faux. En tout cas, quand je chante faux, j'essaye de me corriger. Mais c'est vrai que j'ai voulu rigoler avec cette chanson, une chanson qui réveille les morts. Parce qu'on vit dans un monde qui est dur, très dur. En ce moment, il y a beaucoup de morosité, cette tension dans le monde entier avec la pandémie. Et j'ai dit, il faut faire une chanson qui... Et j'ai trouvé cette chanson américaine, qui est chantée depuis longtemps par tous les folkloristes, que ça vient de bien avant Pete Seeger, mais ensuite Bruce Springsteen. Dylan a chanté aussi des chansons.
On l'appelle Old Dan Tucker.
Vieux Dan Tucker. Mais donc c'est une chanson qui a pour but de donner envie aux gens de danser, de faire la fête. C'est pour ça que j'ai mis des cuivres, etc. Quand on chante, moi j'ai fait, c'est un disque qui vient maintenant après 9 ans de silence. Et donc j'ai fait beaucoup de tournées avec une tournée qui s'appelait Visiteurs d'un soir, où j'étais avec seulement 2 ou 3 musiciens, et je chantais dans les villages intimes. Et c'était passionnant. J'ai fait ça pendant 7 ans. Et tout d'un coup, là, je sais que j'ai eu chanté devant 20 000 ou 30 000 personnes, et notamment avec Dylan devant 60 000, ou plus même. Et je me dis, sur des grandes scènes comme ça, en plein air, il faut quand même arriver avec des bons bagages. Et donc ça fait le disque que je viens de faire a pour but de me remettre un peu en place sur les grandes scènes de plein air.
Alors, qu'est-ce qui marche encore pour vous, Hugo Frey, de cet imaginaire américain, de cette musique folk et de cette ouais. musique folklorique aussi, ouais, ouais. Hein, cet
imaginaire. Pour moi, si vous voulez, l'Amérique, le way of life américain, le rêve américain existe. Il a existé à 18 ans avec mes deux frères. J'avais dit à mes deux frères, on s'en va aux États-Unis. En passant par le Canada. Mes deux frères ont été pris parce qu'ils avaient des diplômes. J'en avais pas, j'ai pas pu partir. Eux, ils sont partis. Mon frère aîné a fait une carrière de mathématicien. C'est un des plus grands mathématiciens de ce siècle. Il a 94 ans et il vit au Sainte-Marie-de-la-Mer, où il continue à étudier, chercher la porte de sortie de la physique quantique. Le second, je l'ai perdu, c'était un homme extraordinaire, il avait une voix splendide, un physique splendide, il aurait fait une carrière mondiale dans l'opéra, il avait une des plus belles voix qu'on peut imaginer, il s'est suicidé à l'âge de 27 ans, c'était le drame de ma vie. Et moi j'ai fait ce métier de chanteur par hasard et par nécessité, comme disait le prix Nobel Mono. J'ai pas choisi ça. Donc je l'ai fait un peu à reculons.
Comment ça s'est passé, Hugo Frey? Vous étiez parti pour être peintre, sculpteur. D'ailleurs, vous avez fait la couverture de cet album-là, Autoportrait. Oui, oui. Vous avez repris une de vos peintures.
Oui, de Mousse. C'est quelqu'un qui m'a offert du vin pour Noël. J'ai démonté la caisse de vin. Il y a une caisse comme ça. J'ai pris deux planches pour le remercier. Puis j'ai fait un tableau que je lui ai envoyé.
Sur bois.
Il me restait deux planches, deux petites planches. J'ai fait un petit truc comme ça, qui et comme à cause du confinement, on ne pouvait pas faire de photos, c'est Mondino qui devait venir faire une photo, il n'a pas pu venir. Quelqu'un a vu ce tableau et a dit, on va le prendre. Et comment s'appellera ton disque? Ben j'ai dit, puisque vous prenez un autoportrait, ça s'appelle autoportrait, rien à voir avec le self-portrait.
Le selfie.
Le self-portrait de Bob Dylan.
Le self-portrait de Bob Dylan. Alors ça, c'est encore autre chose, peut-être. Encore quelques mots sur l'Amérique vous continuez à explorer après justement une carrière entière aussi de passeur entre une Amérique bien particulière,
celle
des robots, celle aussi de Dylan. Il y a la balade de John Henry aussi dans cet album-là. Autre personnage du folklore américain.
Oui. Pour moi, l'Amérique, c'est le pays de l'émigration. C'est le pays qui a dominé le XXe siècle. On peut me dire tout ce qu'on veut, on n'a pas été libéré par les troupes soviétiques, on a été libéré par une coalition franco-américaine, anglaise, etc., et australienne. Il y a même dans mon disque une chanson australienne, qui est magnifique, qui est l'hymne des insoumis australiens, qui est des jeunes, ça s'appelle Matilda. Matilda, c'est pas une femme, c'est le sac à dos que portaient les pauvres vagabonds. De les swagmen qui cherchaient du travail de ferme en ferme, et comme le sac à dos bougeait dans l'eau comme ça quand il marchait et qui croisait un autre vagabond identique, le gars qui a écrit cette chanson disait come with me, on va faire danser, viens avec moi, on va faire danser la Matilda ensemble. La Matilda, c'est-à-dire le sac à dos. C'est une chanson de partage, c'est une chanson, c'est l'abbé Pierre qui est dans cette chanson. Mais ce que je veux revenir à l'Amérique, qui est tellement critiquée et critiquable, si vous voulez, parce que tout est critiquable dans la vie. Mais quand même, je sais que si Martin Luther King, pour qui j'ai chanté en 66 au Palais des Sports, pour le premier concert de lutte contre le racisme, qui est venu me remercier, me saluer, me serrer la main, et qui m'a envoyé une lettre pour me remercier des États-Unis, bien sûr. Là, c'est si Martin Luther King revenait aujourd'hui, il serait obligé de constater, en regardant la télévision, en regardant le cinéma, que la condition de noir en tant qu'être humain n'est plus la même. On n'a pas le droit. C'est toujours, quand il y a de l'antiracisme, même si c'est 1%, c'est en trop. Moi, j'ai toujours lutté contre le racisme, mais je ne veux pas qu'on décourage les jeunes d'aujourd'hui en disant les Français sont racistes. Tout à l'heure, Philippe, vous avez parlé de, qui était antisémite.
Louis Lumière.
Mais à cette époque, tout le monde était antisémite. Mais c'était plutôt... comment on appelle ça quand on n'aime pas les étrangers, l'expression...
Le racisme.
Non, il y a un mot plus précis. Bon. Voilà, c'était pas la même chose que l'antisémitisme d'après les camps, quoi, ou au moment des camps. Ça, c'est vraiment l'horreur, ça. Mais ce qu'il faut dire, c'est que l'Amérique, quand même pour moi, est le pays où il y a tous ces héros que je chante dans ce disque. Alors, John Henry.
Ah, John Henry, quelques mots sur John Henry.
John Henry, c'est un type qui mesure 2 mètres, qui a existé, qui est d'une force formidable.
C'est un pousseur d'acier?
Il est capable avec 2 masses, ce qu'on appelle des masses, c'est des énormes marteaux avec des longues manches. Personne ne peut, on tient une masse à deux mains. Et lui, avec ses 2 bras, il pouvait planter les clous pour fixer les rails. Alors que tous les autres ouvriers se mettaient à 3 ou 4 et faisaient comme on faisait autrefois, tac, 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 en rond. Et John Henry, un jour, le contremaître du chantier, vient le voir et lui dit « Mon pauvre John Henry, les patrons viennent d'acheter une machine à vapeur qui plante les clous plus vite que toi. » Il a dit « C'est pas possible. » Il a dit « Si, c'est possible. » Et il a dit « Ben, on va faire une course. » C'est authentique, hein, l'histoire. La course est organisée, le départ, la machine...
Je précise, hein, pour les auditeurs, qu'il y a tout un jeu de bras qui va avec, hein, ouais, le train, ouais, les rails.
Je fais des bruits parce que j'ai un cinéaste en face de moi qui aime bien les bruits. Et puis, le John Henry, tac, 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 tac. Mais le pauvre malheureux, évidemment, la machine va devant lui. Il est en train de perdre. Mais tout d'un coup, la machine, rupture de, comment on appelle ça? Un tuyau, quoi. Et la machine tombe en panne. Qu'est-ce qui se passe? John Henry, tac, 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 tac. Il continue. Et il gagne la course. À ce moment-là, il se lève, les 2 bras comme ça, dans la chanson, j'explique, dans un geste antique, il se lève et dit, l'homme n'est pas un robot. Et il tombe raide mort. Infarctus. Eh bien, c'est une chanson qui existe, qui raconte l'histoire de John Henry. J'ai vu l'endroit où il est mort. Il y a une tombe. C'est un héros. Et tout à fait par hasard, après avoir écrit cette chanson, je suis tombé, je ne sais pas comment, sur un livre que j'ai dû acheter il y a 20 ou 30 ans, dans ma bibliothèque. Le nom m'échappe, il faut pas. Bernanos écrit un bouquin qui s'appelle « La France contre les robots » en 1936, il est au Brésil. Et toutes les chansons qui sont dans ce disque, ont l'air de parler de l'actualité, on dit « Ah, il a écrit ça parce que les gilets jaunes, paye-moi my money down ».
Mais c'est plutôt de l'ordre du mythe aussi,
c'est bien avant, c'est bien. J'ai écrit ça il y a 2 ans, « Pay me my money down ». Et le dernier vers, vous voyez que je fais pas de poésie moi, j'ai dit « Paye-moi ce que tu me dois, paye-moi ce que tu me dois ». C'est un marin qui dit à son capitaine « Vous allez prendre votre retraite, payez-moi avant que de partir ». Et moi, le dernier couplet, je dis, paye-moi une monnaie d'homme.
On va écouter.
Hé, hey, capitaine, fais pas le malin. Ce soir, faut que tu me payes. Tu vas tirer demain matin. Ce soir, faut que tu me payes. Toi, le pacha, t'es trop futé. Ce soir, faut que tu me payes. Demain, tu voudras m'arnaquer. Ce soir, faut que tu me payes.
Alors celle-ci, c'est une des nouvelles chansons, Hugo Frey.
8 nouvelles chansons. 8 nouvelles chansons. Et 4 anciennes.
Des reprises. Juste,
oui, pour montrer, c'est à la demande de Universal que j'ai fait ça. C'est pour montrer que Hugo Frey s'est pas mis à faire du folklore américain comme ça.
L'année dernière ou il y a 2 ans.
Oui, mais ça, les 4 autres chansons, elles remontent à il y a 30 ou 40 ans.
Et en même temps, sa temporalité, elle est plutôt joyeuse. Voilà, Hugo Frey, non, la continuité, qu'on pense à Stu Ball, qu'on pense aux reprises justement de Dylan, cette continuité-là à travers le folklore américain, elle est plutôt...
Voilà, oui, c'est la vie actuelle. Le hasard veut que beaucoup de mes chansons ont l'air d'être inspirées par des faits actuels. Il y a le pire de tous, c'est évidemment la dernière chanson du disque qui s'appelle « Il y a un homme qui prend des noms ». Cette chanson, quand je l'ai découvert, je comprenais pas de quoi il s'agissait. J'ai fait une enquête incroyable qui a duré longtemps. Comment c'était en anglais? C'était there is a man going round taking names. Je comprenais pas ce que ça voulait dire. Il y a un homme qui tourne autour et qui prend des noms. Il a pris le nom de mon père, il a pris le nom de ma mère. Et alors j'ai réfléchi, j'ai dit c'est quoi? C'est forcément un policier, quoi. C'est forcément sur une musique qui était vraiment afro-américaine, quoi, black. J'ai dit c'est une chanson sur le Ku Klux Klan. Donc j'ai travaillé et j'ai fait une chanson sur le Ku Klux Klan qui raconte l'histoire atroce de Lewis Washington. Je sais plus comment il s'appelle son prénom. Jesse Washington, 17 ans, ouvrier agricole, qui est condamné à, qui accusé de viol, d'avoir violé une blanche, et brûlé, découpé en morceaux, d'abord, brûlé, vif, sur la place, devant 10 000 personnes, en 1900, je me souviens plus, j'ai mis dans le disque, 1906 ou 1916, à Waco. Eh bien, ça n'a aucun rapport, évidemment, avec ce qui vient de se passer avec George Floyd, sauf que c'est, encore une fois, cette horreur du racisme. Et évidemment, il faut que les gens sachent que je ne suis pas quelqu'un qui écrit sur l'actualité après les faits.
Mais ça n'empêche pas l'engagement, Hugo Frey. Ça n'empêche pas l'engagement.
Non, mais moi, je suis pas engagé.
Même si c'est pas l'actualité.
Oui, non, mais
il y a quand même une continuité.
Voilà, la continuité, pour moi, c'est une règle. La lutte contre le racisme n'a pas... Vous savez, moi, je dis... Il y a une chose que je voudrais vous dire. Entre liberté... La liberté a des limites. C'est ça qui m'agace un peu dans la devise de la République française. Liberté, oui, mais quelle liberté? Ce matin, en venant chez vous, j'ai découvert que sur le mur de l'atelier de Mayol, que j'occupe maintenant, il y a des petits voyous qui ont fait des graffitis ridicules. Ça, c'est leur liberté pour eux. Ça, cette liberté est insupportable. La liberté a des frontières, elle doit s'arrêter là où commence la vôtre, Philippe, et la mienne.
Bon. Hugo Frey, pour revenir à cette histoire...
Attendez, c'est la fraternité qui n'a pas... Je veux mettre à la place de liberté dans la devise de la République française, je mets fraternité, justice, laïcité. Parce que la fraternité est sans limite.
Alors un dernier mot, Hugo Frey, de cet album Autoportrait, il y a aussi ce retour justement des chansons que vous avez sélectionnées parmi vos chansons plus anciennes, notamment Stute Ball, il y a La soupe à la grand-mère, il y a Hasta Luego. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ces chansons-là et est-ce que ces chansons aujourd'hui, Hugo Frey, alors que vous avez 90 ans, on en a parlé, est-ce qu'elles représentent aussi un autoportrait pour vous? Ou est-ce qu'elle représente un début de carrière, quelque chose d'autre?
Ce que je peux pas vous dire, c'est que...
Vous l'aurez signé toujours?
Bien sûr. Il y a quelque chose qui me paraît absolument fondamental dans la vie. Celui qui scandalise un enfant, c'est un assassin. Donc, je n'ai jamais écrit de chansons pour enfants, mais les enfants ont adopté certaines de mes chansons, librement, par goût, comme Stu Ball, le petit âne gris, par exemple, qu'ils aiment beaucoup dans les écoles. Et je suis chanté dans les écoles, notamment les 4 chansons que j'ai mis là, dans ce disque. Je les ai choisies parce qu'elles sont chantées dans les écoles et qu'elles ont toutes un message. Dans le bon Dieu s'énervait dans son atelier parce que pour faire un monde, Dieu que c'est long. Dans la chanson La soupe à ma grand-mère, dans La soupe à ma grand-mère, il y a toujours quelque chose que j'aimais, c'était les pommes de terre, mais ce que j'aimais pas, c'était les oignons. Bon, Hasta Luego, c'est une chanson que j'ai composée pour le père Jaouen, un marin, un curé marin breton qui était aumônier dans les prisons. Et quand il a pris sa retraite, il a armé un trois-mâts, il y avait plus de trois-mâts en France, il a récupéré un trois-mâts en Hollande, qu'il a armé, qu'il a appelé le Bel Espoir, et il a emmené des enfants qui étaient drogués. Les enfants de la nuit, laissez passer les enfants de la nuit. C'est une chanson que j'ai composée pour le père Jaouen, qui était un homme formidable, qui n'est plus avec nous, mais il est toujours dans mon cœur. Et ces chansons-là, ce sont les chansons que les enfants adorent. Donc, moi, je suis... Dans ce disque, il n'y a rien... D'ailleurs, Dan Tucker, c'est pour ça que j'ai été très doux dans Dan Tucker, parce que dans la chanson américaine...
Oui, la traduction est un petit remaniement aussi.
Oui, oui. À l'origine, Dan Tucker, c'est quelqu'un qui n'est pas très fréquentable. Dans Charlie Hebdo, on aurait dit c'est un gros dégueulasse. Bon, moi, je peux pas chanter ça à des enfants. Donc, moi, je pense que aussi bien en philosophie qu'en chanson... il faut qu'un enfant de 8 ans puisse entendre ce que je fais sans être choqué. Et juste à propos de ça, je dois vous dire que là, il y a une chanson magnifique qui s'appelle, qui est évidemment une chanson du folklore, qui s'appelle Erie Canal, le canal Erie. Sur le canal Erie, 650 km qui va de l'Atlantique au lac Erie, on a fait un canal et il y avait jadis des péniches qui transportaient le matériel, mais elles n'avaient pas de moteur, donc elles étaient tractées par des mules ou des chevaux. Et donc la chanson raconte l'histoire d'un muletier qui parle de sa mule comme si c'était une femme, en disant qu'elle était merveilleuse ouvrière, etc. Et quand ils passent sous les ponts, ils sont obligés de les gens qui sont sur la péniche sont obligés de baisser la tête. Et donc, le capitaine dit « Low down, everybody down non, pas low down.
Baissez-vous tous.
Low bridge, excusez-moi, je me souviens plus. Low bridge, everybody down. Tout le bateau, le pont est bas, tout le monde baisse la tête. Et moi, j'ai voulu ajouter ma petite note de morale. J'ai gardé donc le low bridge et passer le pont. Quand la première fois on dit low bridge, tout le monde baisse la tête, et quand on dit la deuxième fois low bridge, je dis tout le monde relève, passez le pont, tout le monde relève la tête.
Merci Hugo Frey, on va devoir s'arrêter là. Merci beaucoup à Philippe Garrel d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Votre nouvel album s'intitule Autoportrait, il sort vendredi. Quant à votre film, on le trouve dans les salles demain. Philippe Garrel, tout de suite, c'est l'heure de la chronique de François Sureau, La Seine et nos amours.
Alors ici, nous sommes au kilomètre 250 à partir de Source-Seine. Nous sommes à Samois et honnêtement, c'est très joli. Nous sommes dans une île avec la Seine qui est assez large, un petit bras qui est derrière nous avec des villas, une écluse un peu plus au nord, des péniches, frères loups et une péniche hollandaise. Et devant, une sorte de parc gigantesque avec une Seine qui coule majestueusement comme un fleuve d'Amérique. C'est vraiment très beau. Pour y parvenir, nous avons traversé un massif forestier qui est l'extrémité du massif de Fontainebleau, avec des bouleaux, avec des sables et avec des rochers. Et nous avons vu finalement deux types de paysages de Seine très différents. Nous avons vu, au cours de notre escapade précédente, quand nous étions à Bray-sur-Seine, nous avons vu une sorte de Seine russe, grande, avec des bouleaux assez austères, etc. Ici, c'est une sorte de Seine américaine, c'est une sorte de Mississippi. C'est grand, c'est gigantesque, l'eau s'écoule paresseusement et majestueusement, et c'est américain aussi, non seulement à cause de l'air américain du fleuve, mais aussi parce que quand le fleuve se resserre et qu'on voit les maisons, les guinguettes, les péniches, eh bien on a l'impression de voir une sorte de France vue par l'œil d'un Américain, presque une petite France de caricature absolument charmante. Ici, entre Samois et un village qui est juste à côté, qui s'appelle Thomery, s'élèvent deux bâtisses tout à fait étonnantes. Le premier petit château était celui de Rosa Bonheur, qui s'est exilée à Bie pour fuir la cour de Napoléon III et qui peignait des animaux. Et au fond, elle était contente de s'être installée à Bie parce qu'elle avait des animaux sous la main, elle leur a fait une sorte de crèche laïque où voisinait le bœuf et l'âne, ce qui fait qu'elle pouvait se rendre dans la crèche et peindre tout ce qu'elle voulait. On dit que certaines têtes de lion peintes par Rosa Bonheur ont servi pour la fabrication du blason de cette association étrange, à la fois mondiale et provinciale, qui s'appelle le Lions Club. Rosa Bonheur, quant à elle, s'habillait le plus souvent en homme et bénéficiait pour ce faire d'une permission de travestissement signée en 1857 par le préfet de police de Paris. Et c'est dans le château de Bie, qui est situé à quelques kilomètres d'ici, qu'elle a reçu en 1889 William Cody, dit Buffalo Bill, qui était au fond le grand massacreur de ses modèles favoris et qui lui offrit une panoplie de Sioux qu'on peut voir maintenant au musée du village. moins résistante que Buffalo Bill, elle est morte d'une congestion pulmonaire après une promenade en forêt, et laisse une œuvre où, comme disait Clarty, un grand critique de l'époque, les bœufs sont plus réussis que les hommes. À Vollard, qui lui demandait son avis, Cézanne avait dit « Oui, Rosa Bonheur, c'est horriblement ressemblant. Une toile de Rosa Bonheur assourdie toujours par ses beuglements silencieux, on ne s'en lasse pas. » Juste à côté, en face, à Thomery, il y a un petit château, c'est pour ça que je parlais aussi du genre américain, qui s'appelle La Rivière. On croirait un peu Monticello, au débouché d'une courbe où la Seine très large paraît creuser une forêt du Nouveau Monde. Et l'ensemble évoque Jefferson, qui habitait Monticello, les Virginiens et la Déclaration des droits. Pourtant, cette maison appartenue au comte Greffull, dont la femme a inspiré le personnage d'Oriane de Guermantes dans La Recherche du Temps Perdu, et après à Fabrelus. Et c'est là où, en 80 ou 90, j'ai pu rencontrer la gauche moderne, la gauche rocardienne, qui m'était jusque-là demeurée complètement inconnue. Dans ses souvenirs de 48, Tocqueville écrit à propos des députés de la montagne pendant la Révolution de février « Ce fut pour moi comme la découverte d'un nouveau monde. On se console de ne point connaître les pays étrangers en pensant qu'on connaît du moins son propre pays, et l'on a tort, car il se trouve toujours dans celui-là même des contrées qu'on n'a point visitées et des races d'hommes qui vous sont nouvelles. En rencontrant les rocardiens, j'ai eu exactement cette impression-là. » Et puis, à Samoa, où nous sommes maintenant, tout près de l'endroit où Vincent et moi venons de déjeuner, d'une pizza absolument caractéristique de cette partie de la Seine, à Samoa, donc, il y avait un petit port où Georges Simenon a amarré une péniche qui s'appelait l'Ostrogo, qu'il avait achetée en 1930 après avoir revendu un bar dont il s'était rendu propriétaire au peintre Fujita. Et c'est à Samoa que Maigret est né. Le premier Maigret connu, qui est signé du pseudonyme que Simenon utilisait à l'époque, qui était Sim, s'appelle La Femme Rousse et se déroule à Samoa. Maigret n'est pas vraiment lui-même, il le deviendra un peu plus tard. Et curieusement, c'est aussi à Samoa que se passe la dernière enquête de Maigret dans L'Écluse numéro 1, un roman publié en 1933. Alors évidemment, ça n'est pas la dernière enquête de Maigret. Il a écrit à l'époque la dernière enquête de Maigret. La dernière enquête de Maigret se passera en fait bien plus tard. Ce livre, tout entier brouillé par une brume de Seine, présente une collection de psychopathes qui se déchirent entre meurtre et suicide dans une pénombre douloureuse. Maigret n'est pas entièrement lui-même, il ne se prénomme pas encore Jules, il se prénomme Joseph. Il n'habite pas boulevard Richard Lenoir, mais boulevard Edgar Quinet, et à 6 jours de la retraite paraît curieusement malhabile et inexpérimenté. Mais il est déjà un bloc de compassion. Et le comprendre et ne pas juger, dont Simenon avait fait son ex-libris, se comprendre et ne pas juger, sur lequel on voit un homme nu, c'est la devise de Maigret, et c'était aussi la devise de Simenon. Une devise de compassion, parce que chez Simenon, il n'y a que des victimes, y compris les criminels. Le monde les écrase tous, les broyant dans des structures mauvaises qui ne sont pas réformables et qui leur ont faussé l'esprit et le cœur. On le voit, ce détail très très significatif, que tous, du clochard au bourgeois, habitent en termite des bâtiments trop grands pour eux, qu'il s'agisse des maisons de Samoa que nous voyons autour de nous, ou du château de Saint-Fiacre, ou même d'un pont sous la Seine. Simenon a dû faire cette expérience, au fond. Dans la succession de ces résidences étonnantes dont il avait fait des arches où abritaient ses familles et son angoisse d'écrire, jusqu'au monstrueux bunker d'Épalinges dans le canton de Vaud, qui s'en va aujourd'hui par plaques, rongé par la mousse, et toutes ces demeures, au fond, il les a abandonnées les unes après les autres dans la poursuite d'un réconfort qui ne venait pas. Et lui aussi, au fond, a dû, comme ses personnages, souffrir de ses vêtements trop grands. Il en est resté cet homme nu, l'espoir d'un salut jamais évoqué, promis à nos destinées d'insectes et dont les trajets se perdent dans le noir de la mort. Une œuvre immense, une des plus grandes œuvres françaises, écrite en langue française du XXe siècle. Et la présence à nos côtés, là, sur les bords de la Seine, à 2 pas de l'endroit où était amarrée la péniche L'Ostrogo, du commissaire Maigret. Mais ici, nous pouvons, comme Simenon, revêtir le costume d'un de ces bateliers qu'il a si bien décrit, et qui, venant du Nord, vont vers la ville Lumière, la ville de tous les vices et la ville de tous les drames, un verre de genièvre après l'autre.
C'était François Sureau qu'on retrouve demain. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Chouchane Djergaillan, Lou Quevauvillier, Jeanne Copé, Judith Kravitch et Mathieu Bellini à la réalisation, Marie Placé à la technique, Jean-Guilain Melge. Je vous rappelle que cette émission est disponible en réécoute et en podcast sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France.